Les jours de lundi au vendredi à partir de 11h sur Canal FM pour le débat.
Oh, shalom.
Production généralement de type artisanal.
C'est chemin faisant que les gens se retrouvent pour parler de ce qu'ils ont démarré. Alors qu'il y a eu des vacances.
C'est pour soulager les femmes dans tous les secteurs, pas seulement que les portefeuilles.
Mais... Oui, je suis d'accord. Mais je dis pour le moment, il n'y a pas un vide, quoi.
On attend, et à une période de l'année, ça reprend, rebelote l'année prochaine, rebelote.
Par rapport à ce dossier, là, franchement,
moi je n'ai pas rencontré quelqu'un quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épanouir, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de tout.
Club de la presse, un nouveau rendez-vous sur Canal FM. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de vous informer à travers cette émission. Thomas Kossi aidait DATV et à la commande technique pour la mise en onde. Jérôme Akoutia s'occupe de la mise en ligne. Si vous êtes à l'intérieur du pays, vous avez la possibilité de nous suivre par l'intermédiaire de nos partenaires Radio Lumière, Radio La Paix, Centrale FM, Radio Daoul, Sama FM et Radio Courtoisie. Vous nous suivez également sur les plateformes numériques de Canal FM, sur Ibn Radio et sur Radio Les Bénins. Le panel de ce jeudi est composé de Michel Tchadja du journal Ouara les Vainqueurs. Bonjour Michel.
Bonjour Fouseni, bonjour Canal FM.
Nous espérons Magloire Teko du journal Flambeau des Démocrates et Jean le Grand Polorien du journal Canal D. Ravi de vous avoir autour de cette table, nous démarrons dans un instant. Pour démarrer cette émission, nous recevons Dr Kwevi Amavi Gustave, professeur à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il est le directeur exécutif de l'IFORD, Institut de formation et de recherche pour le développement durable. Monsieur, bonjour.
Bonjour, monsieur Fosséné.
Il est accompagné du docteur Kanyi Togbe-John, enseignant-chercheur, maître en administration publique. Bonjour.
Bonjour.
Le micro ne marche pas encore. Allez-y. Bonjour.
Bonjour, Fouseni.
Heureux de vous accueillir sur ce plateau. D'abord, pour commencer, dites-nous comment se porte l'IFORD.
Ben, l'IFORD se porte très bien. Et l'IFORD remercie Canal FM de le recevoir à nouveau cette année. L'IFORD se porte très bien parce que nos objectifs sont atteints et évoluent même en termes de progression. Donc nous remercions au passage Canal FM et toutes les autres radios et télévisions, nos partenaires qui sont là et qui nous soutiennent. Nous remercions également nos étudiants, nos enseignants, ainsi que le personnel de l'IFORD.
D'accord. L'année dernière, nous vous avons reçu sur nos antennes et vous nous parliez de la politique de zéro franc à l'IFORD. Alors, docteur Kanyi.
Oui. Oui, l'année dernière, nous avons initié la politique zéro franc à l'IFORD pour les nouveaux bacheliers. Et c'est une politique qui a bien marché, et parce que nous avons reçu beaucoup de bacheliers à l'IFORD. Et cette année, nous reconduisons cette politique parce que C'est pour aider premièrement les parents, afin que les parents puissent faire inscrire leurs enfants à l'IFOD. Et c'est dû également à l'inflation aujourd'hui avec la situation de Covid. Donc nous avons pensé initier cette politique et ça, beaucoup de parents nous ont remercié pour ça.
Est-ce que cette politique est-elle reconduite cette année, docteur Kouévi?
Cette politique est reconduite cette année pour la simple et bonne raison que, d'une part, les parents nous ont remerciés, comme mon ami vient de le dire. Ils ont été nombreux à nous remercier d'avoir eu cette politique sociale à l'égard des bacheliers et d'eux-mêmes en tant que parents. Mais nous devons ajouter aussi que ce sont les étudiants qui ont eu à bénéficier de cette politique zéro franc qui l'ont redemandé afin que d'autres puissent bénéficier des mêmes avantages qu'on leur a accordés comme eux. En fait, la politique zéro franc, si vous permettez, nous allons l'expliquer un peu.
D'accord.
Il s'agit d'offrir la première année de licence à zéro franc. C'est-à-dire que nous accordons en première année 100% de bourse à tous les bacheliers, nouveaux bacheliers ou anciens bacheliers qui ne sont pas encore entrés dans le cycle universitaire. En première année, quelle que soit la filière dans laquelle ils viendront s'inscrire, ils ne vont rien payer en termes de scolarité. Mais la politique zéro franc ne s'arrête pas en première année. L'IFOD accorde 50% de bourse aux mêmes étudiants lorsqu'ils parviennent en deuxième année et 25% de bourse lorsqu'ils seront en troisième année de licence. Donc c'est un regard social, un geste social que nous faisons à leur égard sur tout le cycle licence.
D'accord. Alors, bonne nouvelle, nous avons appris que l'IFORD a signé un partenariat avec l'IED Paris 1. Pouvez-vous nous donner les détails de ce partenariat, docteur Kanyi? Docteur Kouévi, allez-y.
Merci encore. En fait, vous nous posiez tout à l'heure la question de savoir comment se porte l'IFOD. Et nous avons répondu que l'IFOD se porte bien. Et la preuve en est que cette année, l'IFOD a pu décrocher un partenariat avec la première université de France, qui est l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au sein de laquelle il y a une faculté, une composante qui est l'école de droit de la Sorbonne. Et l'école de droit de la Sorbonne organise des formations en présentiel, classiquement, c'est-à-dire avec des cours magistraux et tout ce que nous savons. Mais l'école de droit de la Sorbonne a innové depuis 4 ans déjà en organisant des formations à distance. Ce sont des formations qui sont pour moi qui y participe en tant qu'enseignant à l'Université Paris 1, ce sont des formations qui sont d'une rare qualité pédagogique et d'une densité aussi en termes de tout ce qui est mis en place pour que ces formations se déroulent très bien. En fait, si ce partenariat a pu aboutir, c'est parce que j'ai compris très tôt les avantages qu'offrent ces formations qui sont des formations juridiques. Donc ce sont des formations qui sont ouvertes à ceux qui veulent faire du droit. Ces formations juridiques présentent vraiment beaucoup, beaucoup d'avantages que nous allons expliquer la semaine prochaine à l'IFORD. Donc d'accord, nous invitons les auditeurs à venir participer à la journée d'information et d'orientation que nous organisons la semaine prochaine, c'est-à-dire mardi et mercredi prochain à l'IFORD. Alors, pour revenir à cette formation, de quoi il s'agit? Ce sont des formations à distance. Donc, ces formations sont à l'origine organisées pour des étudiants français qui ne sont pas à Paris.
D'accord.
Mais tout de suite, on l'a élargi à tous les étudiants du monde, en fait. C'est-à-dire que ces formations sont suivies depuis 2 ans par des étudiants aux États-Unis, qui sont au Japon, qui sont au Qatar. Alors, participant de l'intérieur à ces formations et ayant vu la qualité et le contenu, je me suis dit, mais c'est quelque chose qu'il faut pour, disons, les jeunes Africains aussi, pour les Africains d'une manière générale. Parce que il s'agit d'une formation, il s'agit de formation de niveau capacité en droit. Donc ces formations sont ouvertes à ceux qui n'ont pas eu la chance de décrocher le baccalauréat, mais qui souhaitent quand même aller à l'université après. Mais fondamentalement, ces formations sont organisées et se déroulent au niveau licence. D'accord. Licence 1, licence 2, licence 3, ainsi qu'au niveau master. Et au niveau master, il y a plusieurs déclinaisons de ces masters en droit privé, droit des affaires, droit public, de la décentralisation. Donc nous avons toutes ces informations et nous avons envie de les partager avec les Togolaises et les Togolais, tous ceux qui sont, tous ceux qui auraient envie d'être au Togo et de suivre des formations comme s'ils étaient à Paris, de partager les plateformes de formation avec les étudiants qui sont à Paris, qui sont à Bordeaux ou à Marseille et qui sont ailleurs, et parce que cette année, ces formations vont s'ouvrir également en Afrique, en Afrique centrale, comme le partenariat que l'IFOD a obtenu va permettre à ces formations de s'étendre et d'avoir lieu dans l'espace ouest africain.
D'accord. Merci, docteur Kouévi. Alors, pour vous trouver, IFOD se trouve, est localisé où, docteur Kanyi?
Oui, l'IFOD est sur le boulevard Akei, donc à Novissi, quartier Novissi.
D'accord. Oui. Peut-être un contact pour vous joindre.
Pour nous joindre, nous avons le numéro le 22 26 28 28 et le numéro 92 19 01 59.
D'accord. Vous restez avec nous. Les auditeurs auront certainement des questions à vous poser. Sans transition, nous passons à notre deuxième invité. Demain, vendredi 18 août, va se tenir à Lomé, précisément au Palais des Congrès, la CONFEGEL, Conférence des Jeunes Leaders. En prélude à cet événement important, nous recevons sur ce plateau Madame Essevi Mimibosu Swegede. Elle est la directrice de la Maison TV 5 Monde, également directrice exécutive de l'APTV, Association Précieux Trésor de Vie. Madame, bonjour et bienvenue dans cette émission.
Bonjour,
Fosseni. Le micro ne marche pas encore. Bonjour, madame.
Bonjour, Fosseni.
Ah, nous avons toujours un souci technique. Allô, ça va, Thomas? Madame, bonjour.
Bonjour, Fosseni.
Voilà.
C'est bon, hein?
C'est bon, on peut aller.
Okay.
Pour commencer,
je voudrais saluer
voilà,
Sass,
okay, allez-y.
Là où il est, certainement, qui nous écoute.
D'accord. Alors, pour commencer, nous avons bien envie de mieux connaître la CONFEGEL. De quoi s'agit-il? Alors,
CONFEGEL, Conférence des Jeunes Leaders. C'est une conférence, une rencontre au cours de laquelle nous mettons devant les jeunes des modèles de réussite, des personnes ressources, pour échanger avec eux et leur donner des outils pour se préparer à la vie professionnelle, à la vie active, à la vie personnelle plus tard. Quand je parle de jeunes, je parle des élèves collégiens à partir de la classe de 3e, nous disons, mais il se trouve qu'il y en a de classe de 4e ou 5e qui sont assez matures pour participer à cette conférence. Donc, nous ne limitons plus des lycéens, des étudiants et même des jeunes professionnels qui aspirent à devenir des leaders.
D'accord.
Dans tous les domaines. Hein, dans tous les domaines. Alors, au cours de la conférence des jeunes leaders, les personnes ressources ou les modèles de réussite qui viennent partagent avec nos jeunes leur expérience, leur parcours, les défis qu'ils ont eu à surmonter et comment ils ont pu les surmonter, etc. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nos jeunes sont un peu désorientés.
D'accord.
On parle de chômage. Ils en font un alibi. Je dis un alibi, hein, parfois, pour ne pas se battre.
D'accord.
Parce que c'est vrai, il y a le chômage au Togo et partout ailleurs. Mais en même temps, il y a des jeunes qui trouvent leur part. Comment ils font? C'est ce qu'on veut leur dire. Comment ils font? Comment se préparer? Comment affronter les défis de la vie? C'est tout cela qu'on partage avec eux au cours de cette conférence-là. Où aujourd'hui, la dernière fois, le 28 juillet, on était avec les jeunes filles. Et il y a certaines remarques qui m'ont un peu choquée quand, par exemple, à la conférence, il y avait une jeune fille. Bon, je vais le dire aussi. J'étais avec, dans le panel avec ma fille, qui est ingénieure actuaire. Et quand, à la fin de la conférence, je l'ai présentée pour leur dire, on parlait depuis, et quand elle donnait, parlait de ses expériences, elle n'arrêtait pas de dire, madame, ma mère exigeait ça, ma mère imposait ça. Et à la fin, je leur dis, en fait, c'est ma profil. Dans le groupe, j'invite souvent des aînés. Il y avait une aînée qui était parmi eux, et une fille qui dit, vous voyez ça, avec leur recherche, leur richesse, ils envoient leurs enfants plus loin et nous sommes ici des pauvres. Heureusement qu'elle a fait au milieu de la conférence, puisqu'on est sorti pour la pause et on est revenu après et j'ai eu à lui répondre. Qui vous dit que les enfants de riches, tous les enfants de riches réussissent? Et qui vous dit que tous les enfants de pauvres ne réussissent pas? Ce n'est pas une question de richesse, ce n'est pas une question de pauvreté, c'est une question de choix, c'est une question de mentalité, c'est une question de préparation à la vie. On peut être pauvre et décider de ne pas être pauvre. À chaque ouverture de la conférence des jeunes leaders, je leur raconte toujours cette histoire. Et je vais encore la raconter. Et je vous la raconte ici. Il s'agit de deux garçons.
D'accord.
Ils ont le même père. Leur père est soulard. L'un est devenu un grand entrepreneur. L'autre est devenu soulard. Quand on a demandé à l'entrepreneur, mais comment tu as fait malgré que tu aies un père comme ça? Comment tu as fait pour devenir un grand entrepreneur? Il répond, j'ai vu la condition de mon père et je n'ai pas voulu devenir comme lui. Je me suis battu. L'autre a dit, mais je suis devenu soulard parce que je n'ai vu que ça. Mon père est soulard. C'est normal que je devienne soulard. Et je leur demande, qui des deux es-tu? Ça veut dire que le choix t'appartient. La vie offre les mêmes opportunités, les mêmes obstacles, mais face à cela, on fait son choix. Non, moi je ne serai pas comme ça et on se bat pour cela. Nous parlons d'orientation aujourd'hui. Comment nos jeunes s'orientent? Peut-être avec les amis, bon, on fait quoi? D'ailleurs, on vient de le bac, ils vont rentrer à l'université. Prenez 3 ou 5 qui viennent d'avoir le bac, demandez-leur qu'est-ce que vous allez faire à l'université. Ils vont vous sourire pour dire il y a encore 3 jours j'ai encore fait l'expérience. Tu veux faire quoi à l'université? Elle baisse la tête, commence à réfléchir. Je dis, mais c'est trop tard. Ça fait combien de jours qu'on a donné les résultats? Tu as fait tout le parcours du lycée et c'est maintenant que tu vas réfléchir pour me dire ce que tu vas faire à l'université? C'est trop tard. Il faut se préparer.
Même déjà à partir de la seconde, on peut se préparer.
Même avant, en principe, avant la seconde. Pourquoi je dis avant la seconde? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux faire la médecine. C'est ce qu'on nous dit souvent. Je veux faire la médecine. Mais pour faire la médecine, on fait quelle série au lycée? On fait la série D ou la série C? Mais pour faire la série D et la série C, il ne faut pas être paresseux en maths ou en physique au collège. Donc vous voyez que l'orientation ne se fait pas au lycée, ça commence plus tôt. Et il faut que les jeunes le sachent. Je reçois une jeune fille sociologue. Ok, tu as fait la sociologie, mais c'est très bien. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as fait en sociologie, qu'est-ce que tu sais faire? Et elle me répond, madame, je ne savais pas que vous alliez me poser cette question, je ne me suis pas préparée. Mais je dis, ce n'est pas possible que tu me dises que tu aies la licence en sociologie et que tu dois te préparer pour venir me répondre à cette question. Qu'est-ce que tu as appris pendant ces 3 années? Ce n'est pas normal. Voilà des jeunes que nous avons aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas le chômage, mais je dis qu'il y a des jeunes qui sont au chômage tout simplement parce qu'ils ne se sont pas préparés. Savez-vous qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont à Lomé ici, mais travaillent à l'extérieur, juste avec l'outil informatique. Ils représentent des sociétés sur place. Savez-vous que des jeunes, d'ailleurs, vous le savez, puisqu'ils viennent de parler de ça. Ok, moi, je n'ai pas des moyens, mes parents n'ont pas de moyens pour m'envoyer en France, aux États-Unis et autres. Aujourd'hui, il n'y a plus de barrières. On peut être au Togo et avoir des diplômes d'autres universités. Faire des certifications en étant dans sa chambre. Mais qu'est-ce qu'ils font avec leurs outils ou avec leur portable ou avec leur méga aujourd'hui? C'est TikTok, c'est Instagram, c'est prendre des photos, s'exhiber et après se plaindre ou jalouser ceux qui se battent pour réussir. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui se battent mais qui ne réussissent pas. Mais pourquoi c'est comme ça? À Confegel, on revient sur tous ces aspects-là pour leur donner des outils et leur montrer des voies par lesquelles ils peuvent passer pour s'affranchir de ces problèmes-là et trouver leur place. Ils sont là pendant les vacances. Je leur dis, Plus tard, quand on va te demander ton CV, qu'est-ce que tu vas mettre sur ton CV? D'abord, l'appel à candidature ou bien l'appel à recrutement. Sur une seule ligne, on te demande ton diplôme. Mais après, on te liste toute une série de conditions. Mmh. Où est-ce qu'on l'apprend? Pas à l'école. Vous les voyez pendant les vacances traîner et tout. Et après, quand on finit, tu prends le CV d'un jeune. Je donne un exemple, 1995, licence, et puis tu vois 2000. Pendant les 5 ans, là, tu as fait quoi? Je n'ai rien fait, j'ai déposé mes dossiers, on ne m'a pas appelé. Mais pour un recruteur, 5 ans sans rien faire va à ton désavantage. Mais au moins, j'ai vendu, j'ai fait un stage par-ci. Ils me diront qu'ils n'ont pas trouvé de stage. Je donne l'exemple, tu veux être commercial et pendant tout ce temps-là, tu restes à la maison, je n'ai rien fait, alors que tu peux commencer à vendre. Et quand sur ton CV, on verra que ben, il a été vendeur, vendeuse, c'est de l'expérience. Bref, pour dire qu'il y a tellement de choses banales que les jeunes doivent maîtriser aujourd'hui pour réussir, et par ignorance, ils ne le savent pas. Et tout cela, nous le leur disons à Confegel. Pour dire Confegel, c'est vraiment un cadre où on leur donne des opportunités d'apprendre des autres, mais également de saisir l'occasion pour se remettre en question, pour se poser les bonnes questions, pour redémarrer sur une bonne base et affronter la vie sur un autre pas.
D'accord. Vous restez aussi avec nous. Nous avons été rejoints par Jean Legrand Polorini du journal Canal D. Bonjour Jean.
Houssini, bonjour. Bonjour aux conférences studio, aux invités, à tous ceux qui nous écoutent sur Canal FM.
Également, Magula Kdeko du journal Flambeau des démocrates. Bonjour Magula.
Bonjour à toi Houssini, bonjour chers confrères, bonjour aux invités, bonjour Canal FM.
D'accord. Nous poursuivons avec un article paru dans Flambeau des démocrates ce jour. Le journal titre « Danger de la morgue, le formol s'invite dans le plat ». Alors Magula Kdeko, depuis quelques années, circule une rumeur selon laquelle le formol serait utilisé à la place du sucre dans l'alimentation. Aujourd'hui, vous revenez sur le sujet, certainement avec de nouvelles révélations.
Oui, bien entendu, vous savez que c'est un sujet, on va dire, d'actualité et de santé publique. Raison de plus que nous nous appesantissons justement sur ça, et pour alerter en réalité l'opinion sur le danger que nous courons tous, parce que quand de la morgue, le formol se retrouve dans nos plats, c'est qu'il y a danger. Alors, vous savez que ce monde ici, d'abord, c'est un monde beaucoup plus capitaliste maintenant, où c'est les intérêts qui guident les pas. Eh bien, ça fait que ça amène beaucoup, on va dire, beaucoup de commerçants à s'occuper dans la facilité, dans la largesse. Et l'approche la plus malsaine trouvée ces derniers temps-ci, soit pour conserver leurs aliments, soit pour augmenter, n'est-ce pas, le taux de sucre, c'est d'utiliser le formol. Alors, nous avons eu vent de ça, on s'est dit comment ça peut être possible. Nous avons poussé plus loin notre curiosité en tant que journaliste, on s'est rendu véritablement compte que des rumeurs, c'est véritablement des faits concrets qui existent à Lomé ici et un peu partout. Puisque nous ne sommes qu'à Lomé, on ne parlera que des faits que nous avons vécu à Lomé. Alors, d'abord, la première catégorie, c'est quoi? C'est les produits congelés que nous consommons très souvent. Voyez-vous, vous allez dans les boutiques, vous trouvez des produits congelés à un prix assez vil. On vous dira 1000 francs, 1200. Vous pensez que ben, très vite fait, on va faire de la soupe, de la nourriture à la maison. Alors, 5 ou 4 minutes tout au plus de cuisson, vous vous rendrez compte que le poulet s'est complètement évaporé, si on peut le dire ainsi, dans la sauce. Et on se demande, ben, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour beaucoup, bon, on a tendance à minimiser cela. On dit, ben, c'est des poulets très, très, très jeunes, que ça n'a pas atteint l'âge mature avant qu'on ne l'abat. Alors qu'en réalité, c'est des produits, c'est des poulets qui ont subi, n'est-ce pas, l'ingestion de ces composantes, on va dire, organiques que l'on appelle le formol. Pour assurer leur conservation de leur lieu, n'est-ce pas, d'abattage, l'entreprise qui a mis en bateau tout ça, pour que ça arrive chez nous ici. Et ça, c'est un. De deux, c'est que quand vous allez même dans nos marchés, vous verrez les bouchers. Vous verrez les bouchers, et la stratégie qu'ils ont trouvée, c'est que, ben, pour éviter que la viande n'attire de mouches, eh bien, on asperge ça de formol. Et donc, ça fait que ben, le boucher, il est là, il vend, mais il n'est pas inquiété par les mouches. Et plus loin également, ça se retrouve dans les gâteaux, c'est-à-dire les gâteaux de mariage, d'anniversaire, dans les confiseries, dans les pâtisseries. Vous verrez tout ça. Même, on nous a rapporté que nos mamans ou qui vendent de la bouillie simplement au bord de la route font également recours. Peut-être pas méconnaissant, par ignorant pour certaines. Mais la réalité, c'est que on leur fait savoir ou comprendre que quand vous utilisez le formol, vous utilisez moins de sucre. En réalité, le formol a un goût très sucré. Et donc, vous n'avez pas à dépenser beaucoup pour le sucre avant de donner un goût très sucré à ce que vous vendez.
D'accord.
Et donc, quand nous nous sommes rendus compte que c'est véritablement un fait concret, ben, on s'est dit, mais on ne va pas se taire là-dessus. Faudrait qu'on alerte d'abord l'opinion sur le danger que nous courons et beaucoup plus les pouvoirs publics. Parce que c'est une question de santé publique. Et vous et nous, Dieu seul sait ce que nous consommons lorsque nous sortons de nos maisons. Et à notre retour, le soir à la maison, on trouve des petits beignets au bord de la route, histoire, n'est-ce pas, de grignoter quelque chose. Mais il arrive très fréquemment que nous consommons du formol sans le savoir. Et c'est très dangereux pour l'organisme. C'est pour cela, justement, que nous avons fait cet article pour alerter l'opinion là-dessus.
Merci, Magloire, pour cette enquête. Alors, Michel Tchadja, situation délicate, n'est-ce pas? La santé des consommateurs est en danger.
Oui, c'est pourquoi on dit souvent que lorsqu'on parle du ministère de la Santé, normalement, on devrait dire ministère de la Santé de l'Agriculture. Parce que, à mon avis, les deux doivent aller de pair. Parce que quand on parle de la santé, on parle de la maladie. Or, ce qu'il faut soigner, ou bien les soins qu'on doit administrer, ou bien qu'on doit inciter les citoyens à avoir, on ne le sent pas tellement. On parle, quand on parle de santé, c'est les maladies. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les maladies? Vous l'avez suivi religieusement. Vous avez vu comment certaines personnes avides d'argent se permet d'utiliser ce produit qui n'est pas adapté à la consommation pour pouvoir pouvoir vendre leurs produits au mépris des effets dévastateurs donc de ces pratiques là. Donc il faut quand même que le ministère de l'Agriculture veille donc à tout ce qui rentre. Il a parlé des poulets et tout ça là. Il a parlé des produits des pâtisseries et tout ça là. Est-ce que nous avons des cellules de surveillance de ces pâtisseries là et qu'on voit un peu partout? Faut le surveiller parce que les gens vraiment ont vite fait de tomber dans la facilité pour gagner de l'argent. Et c'est les citoyens qui vraiment de bonne foi à qui c'est arrive à acquérir donc ces produits-là et finissent par avoir des problèmes de santé par la suite. Donc, je pense que nos confrères de Flambeau de Démocrates ont bien fait d'attirer l'attention de nous, les consommateurs, et puis surtout des pouvoirs publics, en tout cas ceux qui sont chargés de pouvoir regarder attentivement dans ce que les Togolais et les Togolaises doivent manger pour limiter les dégâts.
D'accord. Jean Lognan Pellerigny, le problème posé, mais comment y remédier?
Oui, y remédier, c'est vraiment la grande question que tous nous nous posons. Mais moi, je dis qu'au-delà de ces deux ministères dont Michel a parlé, il y a le ministère de la Consommation qui est notamment indexé et qui doit vraiment jouer, peser de tout son poids dans cette histoire. Parce que moi, je dis que au-delà véritablement de sanctionner, je doute véritablement que les ministères puissent avoir les équipes nécessaires pour investiguer, pour être partout et à tout moment immédiatement. Je crois qu'il faut également intensifier la sensibilisation. Parce que plusieurs utilisent ces produits, mais ne sont pas véritablement conscients du danger que ces produits peuvent causer à l'organisme. C'est vrai qu'on doit utiliser le bâton, mais il faut également utiliser la carotte. Parce que moi, je trouve que si les gens sont beaucoup plus conscients véritablement de ce que ces produits renferment, ils comprendront et ne vont pas se lancer dans cette utilisation qui est vraiment dommageable pour nous. Magloire l'a tantôt dit, c'est le capitalisme à outrance aujourd'hui qui entraîne tout ça. Parce que les gens veulent s'enrichir de toutes les manières. On s'en fout de la santé des humains, mais véritablement, c'est grave. Tout ce que nous sommes ici, quand nous sortons, nous consommons les glaces qui n'en consomment pas, les gâteaux, vous êtes invités au mariage, la bouillie. Et souvent, même maintenant, c'est dans les jus que les femmes aussi le mettent. Et véritablement, il faut que les pouvoirs publics réfléchissent à ce qu'il faut faire, parce que on ne peut pas continuer. On en parle. Est-ce qu'il faut réglementer, l'importation du formol, les canaux? Comment est-ce que cela est utilisé? Est-ce que c'est uniquement pour les morgues? Il faut qu'on essaie de verrouiller ça. On en a parlé tantôt des plastiques, mais jusqu'à aujourd'hui, les plastiques continuent d'inonder le marché. La loi est sortie, mais on en fait fi. À qui la faute? Qui doit user de son bâton pour taper sur la table? On attend de voir.
Activité des partis politiques au Togo. Ouara les vainqueurs revient sur le congrès de l'Union des forces de changement intervenu en fin de semaine dernière à Lomé. Le journal titre Congrès statutaire de l'UFC, enfin un nouveau départ. Sur le même sujet, Canal D écrit Politique, congrès statutaire à l'UFC, Gilles-Christ Olympio Rampil, Elliot Ohin out. Et puis Écho du Pays qui titre Congrès de l'UFC avec la reconduction de Gilles-Christ Olympio, la sérénité a prévalu. Alors, Michel Chadia, c'est la fin d'un épisode malheureux au sein du parti de Gilles-Christ Olympio.
Ah oui, vous savez, depuis 2010, le parti UFC est allé armer bagage rejoindre le parti au pouvoir dans un accord politique. Et ce parti n'a pas cessé de nous présenter des feuilletons jusqu'à dernièrement, le samedi passé, où finalement, le parti a organisé un congrès statutaire dans la sérénité, comme nos confrères de Écho du Pays l'ont dit, dans la sérénité, tout s'est bien passé. Et ceux qui se battaient, s'il faut le dire ainsi, notamment le camp Win et le camp Lupi, finalement, on s'est rendu compte que le patriarche est toujours à la manette. Donc, il a été, en tout cas, reconduit à la tête du parti. Ce qu'on a vu en filigrane, c'est que Elliot Win et sa branche n'est pas passé, et donc c'est le camp Olympio Alupi, oui, c'est ça, qui a pris le dessus. Et je pense que il fallait à un moment donné mettre fin à ce que je qualifiais le désordre, parce que au niveau de la CENI, vous avez vu comment après la composition de la CENI, et les communiqués contradictoires qui sortaient du même parti, les gens traversaient la frontière pour aller voir Gilles Olympio. Quand un groupe va, il vient dire oui, que c'est lui qui a la légitimité. Et le lendemain, l'autre traverse la frontière, il revient, il dit non, c'est moi. Bon, finalement, ça ne faisait pas bien. Quand on se rappelle ce que fut l'UFC dans le temps, et donc, avec ce congrès, je pense que c'est. On va dire c'est la fin de la récréation. Et Gilles-Christ Olympio a repris donc son parti entre les deux mains, entre ses deux mains, et donc vivement que la sérénité qui a prévalu lors du congrès puisse continuer pour que ce parti-là puisse apporter sa contribution dans l'édifice national.
D'accord. Contrairement à ce qui se passe au CAR, Comité d'Action pour le Renouveau, le fondateur de l'UFC a eu la chance ou la malchance de voir ses compagnons s'entre-déchirer à cause de la succession à la tête de son parti. Qu'en sera-t-il lorsqu'il ne sera pas là demain? La question est sur toutes les lèvres.
Magloire. Oui, mais je crois que ça, c'est vraiment l'enjeu majeur de tout ce qu'il y a comme péripétie, tout ce qu'il y a comme feuilleton au niveau de l'UFC. On l'a dit à plusieurs reprises ici, nous l'espérons bien, comme Michel a dit, que ça soit véritablement la fin de ce long feuilleton. Maintenant que l'élection a été faite, la question qu'on doit se poser naturellement, c'est et après. Et après, justement, parlant de la succession, je crois que M. Gilles Olympio a fort à faire. A fort à faire parce que quand de votre vivant vous voyez vos héritiers qui se battent devant vous, ça présage à peu près ce qui peut advenir quand vous ne serez pas là. Et donc, il a l'obligation justement d'accalmer, enfin, de faire revenir le calme dans la maison, la sérénité entre ses enfants avant de partir, parce que, quoi qu'on dise, il partira un jour. Et moi, je le disais l'autre fois, à mon humble avis, l'analyse que je fais, c'est que... en réalité, il était au début de cette affaire et il est également à la fin, comme nous le constatons aujourd'hui, parce que c'est lui qui pilote encore le nouveau bureau. Michel a si bien fait de rappeler à peu près ce qui s'était passé. Vous voyez que ces deux clans qui s'entrecoupent, qui se rentrent dedans. Et à la question de savoir, mais sur quoi vous comptez pour agir tel? Eux tous disent, nous avons l'aval, l'onction du président national. Il suffit juste de passer par Aflaou et vous allez vous revenir, vous dire que c'est le président national qui
même
vous a
si,
dit
même si
faire.
Vous n'avez pas atteint Accra, oui. Vous voulez revenir mentir.
Vous dites que c'est le président national qui vous a instruit de faire ci. Mais ce que je sais, c'est que nous sommes sur un terrain politique où nous aspirons tous à être des apprentis démocrates. Et chaque politique a comme soubassement des tests. Moi, je le dis, que ce soit en association... en parti politique ou même dans nos églises, il y a toujours des tests qu'il faut respecter. Et les tests disent que en l'absence du président, c'est le vice-président qui assure, du moins, on va dire, les affaires courantes. Mais je n'ai jamais compris pourquoi on n'a pas laissé M. Olio Tohine, que je ne connais pas, assumer pleinement le rôle qui lui revenait de droit, en tout cas conformément aux tests. Maintenant, on le disait, mais. Vous voyez, quand il s'était agi de la composition de la CENI, par exemple, l'UFC avait présenté deux listes. On avait rejeté la liste du vice-président et on a pris l'autre liste. Ça, c'était un premier signal. Et quand il s'est agi d'appeler les acteurs politiques pour le cadre de discussion au niveau du ministère de l'administration territoriale, l'UFC s'était présenté avec deux délégations. On avait renvoyé une délégation qui s'avérait celle du vice-président. Ça, c'est le deuxième signal. Et on ne pouvait pas faire tout ça sans l'aval du président national. Et nous, on avait dit au début que, ben, vous, clan de M. Elio Tohine, qui dites véritablement que ben, le président national est avec nous, il ne peut pas être avec nous, avec vous, et les choses vont se passer telles. La preuve aujourd'hui, c'est que, ben, après l'élection, c'est le clan de M. Romao et Ali Puy qui contestait, on va dire, ce que M. Ohin faisait. C'est ce clan-là qui a rapporté les élections. Et c'est M. Jikris Olympio qui est leur président. Donc ça dit tout. Et c'est pour cela que je dis, il se retrouve aujourd'hui en acteur principal. C'est-à-dire que oui, moi je suis fondamentalement démocrate. M. Ohin doit déposer les armes, entre guillemets, comme on le dit. Nous sommes sur un terrain politique, on t'a battu. Vous allez vous reposer calmement, ou si ça, cela ne vous convient pas, ben, allez créer votre parti politique. C'est ça aussi les réalités. Mais vous ne pouvez pas rester demeuré membre de l'UFC et combattre encore le nouveau bureau qui venait d'être élu. Pour moi, ce n'est pas normal, ça ne va pas,
il a pas fait.
Bien. Voilà. D'accord. Donc voilà, mais le plus important aujourd'hui, c'est que M. Jikris Olympio, oui, les élections ont eu lieu, il est le nouveau président avec un nouveau bureau, mais il a fort à faire. Il doit pacifier ses enfants avant de s'en aller un jour.
D'accord. Jean Legrand Polorini, un mot.
Ma gloire a tantôt effleuré ma pensée. Le constat que moi je tire de cette histoire, c'est que, en définitive, on comprend qui ment de qui dit la vérité depuis que ce feuilleton a commencé. Parce qu'un clan, vous l'avez si bien relevé, a été écarté de la gestion des affaires de la nouvelle équipe qui a pris le contrôle du parti depuis le week-end dernier. Et moi, je tire la conclusion selon laquelle l'alternance n'est pas encore la bienvenue au niveau de l'UFC. Il faut pas avoir le courage, il faut avoir le courage de le dire. Et ce n'est pas normal qu'un si vieux parti, après tout ce temps-là, que nous ayons vécu, qui nous a fait voir de toutes les couleurs, aujourd'hui, que ce soit encore le président qui reprend le contrôle de la chose, moi j'ai dit qu'il y a un véritable problème au sein de nos partis, parce que les textes, comme Magloire l'a dit tantôt, on a comme l'impression que les textes de nos partis d'opposition ne sont pas bien ficelés et que les partis reposent uniquement sur leurs fondateurs. Je crois que c'est un problème qu'il va falloir véritablement régler pour qu'on n'ait plus ce genre de situation. Parce que vous voyez déjà à son âge très avancé, il est encore président d'un parti. Mmh. Et tant que de son vivant, il n'a pas pu préparer la succession, moi je me pose beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions véritablement sur la suite que ce parti va vraiment donner. Et je crois véritablement que c'est un appel à tous les partis politiques d'opposition. Mmh. Ce qui se passe au niveau du CAR, c'est vrai que l'UFC est en train de l'éviter, mais le souci n'est pas encore définitivement réglé. C'est vrai qu'il faut dire qu'un clan s'est rangé, mais Dieu seul sait ce que cela va sortir demain. D'accord. Je crois véritablement qu'il faut vraiment pacifier les choses, vraiment mettre sur pied des textes vraiment que même le diable ne pourra pas interpréter à sa manière.
D'accord. Pour sortir, Michel Tchadja.
Oui. Je pense que ce qu'il a dit en définitive, c'est ça qui va se passer. Aujourd'hui, c'est vrai. La sérénité a régné lors du congrès. Gilles-Christ Rompio vraiment a mis tout le monde au pas. Mais la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que ceux qui étaient avec Elliot Tewin, même si aujourd'hui Elliot Tewin est éjecté, est-ce que tout ce monde-là est aussi éjecté? C'est pourquoi je suis d'avis avec Jean quand je dis que mais l'UFC n'est pas encore sorti de l'auberge parce que excusez-moi, le jour où le grand Dieu, il plaira le grand Dieu de rappeler Gilles-Christ Olympio, je vous jure que mais c'est ça va, le problème va surgir de nouveau parce que si vous savez connaissez l'histoire politique de notre pays où il y a les présidents fondateurs des partis politiques qui n'ont jamais refusé qui n'ont jamais accepté céder et en tout cas leur place à leur le tenant. Vous avez vu le CAR avec Maître Agbebor, paix à son âme, qui à un moment donné a voulu passer la main. Il s'est vite rendu compte que non, il s'en est pris trop tôt. Il est revenu reprendre sa chose. Et vous voyez, après sa mort, ce qui est en train de se produire, comme le théâtre qui est en train de se produire. Et aujourd'hui, et avec l'UFC, on se pose la question si l'UFC pourra tenir pour, comme ils ont vu le CAR en plein déchirement, est-ce que Gilles-Christ est en train de prendre des dispositions pour que le jour ne sera plus, que le parti ne tombe pas? Parce que le constat qu'on a fait et que les gens évitent de dire, c'est que le clan de Elliot Tewin, à ce que je sache, le clan là qui voulait quand même qu'on revoie l'accord entre le parti UFC et le parti au pouvoir. C'est ça le problème. Vous voyez, l'autre dit, il faut revoir après 13 ans ou je sais pas combien d'années de bras dessous, bras dessous. Qu'est-ce qu'on a? Capitalisons, regardons voir. Mais bon, à un moment donné, à un niveau donné, on ne souhaiterait plus. Et bon, ceux qui sont actuellement aux affaires, bon, naturellement, ils ont le miel entre les doigts, donc ça doit continuer comme ça. Et c'est ce que Elliot Tewin, à un moment donné, ne comprenait pas. Et il voulait quand même chose. Donc aujourd'hui, on l'a jeté. Ok, ça, tout avance bien. Bon, on va voir si vraiment le bateau ne va pas tanguer le jour où le patriarche ne sera plus. Voilà.
D'accord, merci. Nous évoluons à présent avec le dossier Niger. Le Niger qui est toujours dirigé par des militaires qui ont pris le pouvoir le 26 juillet dernier. La position de la communauté internationale, de plus en plus favorable aux putschistes, et ceux qui prônent la violence pour remettre le président Bazoum sont de plus en plus isolés. Le coup de grâce est venu hier de l'Union africaine. L'intelligent titre « Crise au Niger, quelle est la position exacte du Togo ?» Niger titre le journal, l'Union africaine rejette toute intervention militaire et se désolidarise de la CEDEAO. Toujours dans l'intelligent, CEDEAO, coup d'État, Georges Weah dénonce une approche à deux vitesses. Ouara les vainqueurs titre, crise nigérienne, la CEDEAO largement divisée. L'UA s'oppose à toute intervention militaire, quel avenir pour la junte? Le détective titre, coup d'État au Niger, exploitation de l'uranium. Et si l'Afrique de l'Ouest se dotait de centrales nucléaires? Et puis, Canal D qui titre Niger, le sauvetage du soldat Bazoum se complique. Sur le même sujet, donc, le journal titre Situation sociopolitique au Niger, les évêques du Togo en phase avec Fort Niassingbé. Alors, Magloire Teko, votre avis sur l'évolution de la situation au Niger, 3 semaines après le coup d'État?
Ça fait quand même 3 semaines que nous en débattons, et la semaine dernière même, on était encore dans ce studio où on effleurait à peu près les pistes de solutions. Et je me rappelle encore, comme si c'était juste hier, que je disais à l'abordage du sujet que en communication politique, c'est ce qu'on appelle de la propagande. En réalité, l'approche de la CEDEAO. C'est-à-dire que techniquement, ça va être très difficile pour la CEDEAO de faire débarquer, des militaires dans un pays qui est souverain, connu tel. Peu importe ce qu'on reproche aux dirigeants actuels, un coup d'État, aucun démocrate, aucun homme, on va dire civilisé, entre guillemets, ne saurait apprécier ou accepter un coup d'État. Mais le mal est déjà fait. Mais n'empêche, on ne peut pas nous dire facilement comme ça qu'on va attaquer militairement le Niger. En tout cas, pour nous autres, on n'a jamais cru à ça. Sauf que à un moment donné, des gens, peut-être sous le coup de l'émotion, croyaient fermement à cette approche. Heureusement, le coup de grâce est venu hier au niveau de l'Union africaine qui dit qu'il faut plutôt privilégier l'approche diplomatique. Et je crois que juridiquement parlant, la CEDEAO fait partie de l'Union africaine. Et quand l'Union africaine dit que cette approche, elle est morte, je crois que ça dit tout en fait, ça résume tout. Mais même quand on descend un peu du piédestal de l'Union africaine, on sait que bien avant, il y a eu des rois. Des rois, par exemple, du nord Bénin et du nord
du Nigeria
qui sont allés voir d'abord le président Talon. Ils sont également allés voir le président Tinubu. Et ils ont également franchi la frontière pour aller, n'est-ce pas, discuter avec le responsable de la junte au pouvoir. Mais après, il y a également des évêques qui ont pris la parole, jusqu'à les évêques du Togo également avaient choisi leur camp. Et tout ceci, n'oublions pas également que même au niveau des chefs d'État de la sous-région, ils ne parlent pas le même langage. Par exemple, au niveau du Togo, on connaît à peu près clairement la position du Togo, c'est qu'on n'est pas d'accord sur cette approche militaire. Et donc aujourd'hui, j'estime que tous les éléments sont là pour qu'on oublie carrément cette approche militaire. Peut-être seul M. Ouattara de la Côte d'Ivoire, il croit encore fermement. On ne sait pas par quelle magie, mais on attend de voir. D'accord. Mais je ne peux donc que me réjouir d'abord en tant qu'Africain, en tant que citoyen de l'espace CEDEAO, que l'Union africaine ait averti ou du moins interpellé les uns les autres à faire calmos et à privilégier le dialogue, parce que c'est le général Yadema qui le disait, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça termine.
Jean-Legrand Polorini, les espoirs des partisans de l'intervention militaire semblent voler en éclats quand on voit l'évolution des positions.
Oui, bien entendu. Moi, je dis qu'il n'y a qu'eux qui pouvaient croire à leur aventure ambiguë dans laquelle ils voulaient embarquer les chefs d'État de la CEDEAO. Déjà qu'avec le fait que le nombre de personnes opposées à l'invasion militaire s'est amplifié avec le coup de grâce donné hier par l'Union africaine, je crois que leurs espoirs vraiment volé en éclats, avec d'abord la division au sein des chefs d'État de la CEDEAO, qui sont, il faut dire que les propos va-t-en-guerre, ils étaient très minoritaires. Le Parlement de la CEDEAO a également opposé une fin de non-recevoir. Les dirigeants religieux également sont rentrés dans la danse. Et finalement, il n'est resté que deux présidents, le président ivoirien et le président sénégalais, à soutenir vraiment cette position dénuée de tout fondement, je dirais même démentielle et incongrue. Parce que c'est incohérent de penser que, après un putsch perpétré depuis 3 semaines, qu'on mobilise une force pour venir rétablir quelqu'un qui est déjà déchu. La question que beaucoup se posent, c'est la grade présidentielle qui retient actuellement Bazoum, elle va le livrer Bazoum sur un plateau d'or ou comment ça va se faire pour qu'il vienne le prendre et l'installer. Et si lui, par un miracle improbable, comme je l'ai dit, est réinstallé sur son fauteuil, avec qui il va diriger? Et quelle est l'armée qui va le protéger? C'est autant de questions posées qui amènent les uns et les autres à se demander, est-ce que véritablement c'est un chef d'État n'ont pas besoin de faire un tour dans un asile psychiatrique? Parce que toutes les axiomes déjà posées que j'ai évoquées plus haut, vous comprenez que c'est une aventure vraiment au lendemain incertain et qui n'allait aboutir à rien d'autre si ce n'est faire plaisir à certaines puissances occidentales tapies derrière les murs, vraiment qui s'échauffent et qui ont même dit qu'ils sont prêts à financer la force d'intervention militaire. Vraiment, c'est aujourd'hui, moi je dis que les masques tombent et aux Africains de comprendre qui est qui et de savoir qui fait quoi, qui lutte véritablement pour l'indépendance de nos États africains. Et c'est l'occasion de dire qu'il faut tout faire pour éviter un bain de sang au Niger, éviter une Libye bis. Parce que c'est de cette manière que les gens sont venus tromper les uns les autres pour aller créer le chaos en Libye. Et aujourd'hui, le problème libyen, nous le gérons jusqu'aujourd'hui. On disait que c'était les autres, ça arrive petit à petit vers nous. Et c'est arrivé au nord du pays. Parce qu'on est venu, on a eu la mauvaise ou la bonne idée, comme le chef de l'État, Fonia Simke, l'avait dit, de venir créer du bordel, du désordre là-bas. Et aujourd'hui, c'est nous qui payons les pots cassés. Je crois qu'aujourd'hui, la majorité des chefs d'État de la CEDEAO ont compris véritablement où est leur intérêt et qu'il ne faut pas céder le pas. Il ne faut pas suivre les gens qui ont une aventure ambiguë, qui veulent créer le bordel. Parce qu'aujourd'hui, moi, je dis, Macky Sall, il te reste combien de mois pour dégager de la présidence au Sénégal? Vous voyez, président Ouattara qui souffre dans son pays là-bas. Mais quel avantage ont-ils à ce que le Niger soit désorganisé? Et tout ça fait dire, soit ils ont un autre agenda caché derrière, qui n'est pas véritablement de libérer Bazoum, mais de poursuivre un agenda caché de certaines personnes derrière, qui veulent vraiment, qui n'ont pas intérêt à ce que le Niger puisse s'en sortir, qui ont intérêt à ce que la sous-région ouest-africaine soit désorganisée. C'est lui également ici de saluer la position courageuse du chef de l'État, Fonia Singbé, qui a vraiment tenu les câbles. Togo, un petit pays, qui a vraiment porté de la voix avec la diplomatie, avec une attitude optant pour le dialogue face aux loups qui vraiment voulait faire feu de tout bois pour créer du désordre dans la sous-région.
D'accord. Alors, Michel Tchadja, la position qui étonne le monde, c'est celle des États-Unis d'Amérique qui reconnaissent indirectement les nouvelles autorités au Niger avec la nomination d'un nouvel ambassadeur, abandonnant ainsi son allié de toujours, la France.
En réalité, la CEDEAO n'a pas intérêt à faire une guerre au Niger. On lui demande de faire. La CEDEAO, c'est une guerre par procuration. On demande à la CEDEAO de faire. C'est tout le problème. Il faut dire ça aux enfants de soeur, que c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, tu l'as bien dit, les Américains qui ont l'habitude de négocier revolver sur la table, ils ont dégagé revolver tout récemment. Ils ont dit, sur le cas du Niger, c'est le dialogue. Ils ont compris que l'arme ne peut rien régler. Et donc, aujourd'hui, la position du CPS, je vais parler de l'IA. Vous savez, les diplomates ont l'habitude de soigner les mots, ils ont... Sinon, on dit non, discussion houleuse, franche, ça c'est des diplomates. Sinon, c'est que 99% de ceux qui étaient là-bas disent niet, il n'y aura pas de guerre au Niger. C'est ce qu'il faut dire aux gens. Il n'y aura pas de guerre, sauf les délégations des pays vraiment qui veulent la sous-traitance de la guerre. C'est eux qui sont, mais très vite, ils étaient inaudibles. On les a mis en minorité rapidement. Je veux parler du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. On les a mis en minorité au niveau du CPS, rapidement. Parce que leur agenda n'a rien à faire avec ce que les autres chefs d'État veulent pour le Niger. Et Jean le disait, heureusement que le Togo, qui a l'habitude de jouer la médiation dans le cul, connaît comment les choses se passent, a pris une position responsable depuis des semaines. Et que non, il n'y aura pas, le Togo ne va pas s'associer à ces aventures-là qui, vraiment, ma foi, font rappeler aux Africains la manière dont on a, en tout cas, on a tué, excusez-moi, de tuer Kadhafi. Vous voyez? On demande, vous rappelez, 2011-2023, ce n'est pas très longtemps. Hein.
12 ans.
12 ans, nous avons encore l'histoire avec nous. On a appris. Où les, on larguait les armes dans, à Benghazi, là-bas, à des trafiquants de tout poil, les voyous, les délinquants, pour aller vraiment s'en prendre à un président, même quoi qu'on dise sur lui, c'est un président quand même. Je ne sais pas si on compare aujourd'hui la Libye de Kadhafi et la Libye des groupes, des groupuscules actuellement. Qu'est-ce que vous allez choisir, Hussein ? Je ne sais pas. Quelle Libye vous allez prendre ? Donc, aujourd'hui, c'est clair que même la balade des chefs d'état-major à Accra aujourd'hui, je suis convaincu que ça ne vous donnera rien. Parce que la dernière fois, si ça n'a pas tenu, on nous dit non, ce n'est pas une visioconférence. Que, bon, vous voyez. Et suivez l'actualité. On dit il y a 9 attaques depuis. Les 3 semaines, il y a 9 attaques djihadistes. Et en même temps, la CEDEAO sort un communiqué pour compatir à la douleur des Nigériens, ce qui n'est pas de leur habitude. Ça veut dire qu'on leur dit de faire. C'est-à-dire, nous disons ceci, et puis vous allez sortir un communiqué pour dire que. Mais c'est ce qu'on vous souhaiterait. On souhaiterait que les chefs d'État. Créer une armée pour combattre les djihadistes. Pas pour aller chasser une armée, mais je ne sais pas, je ne suis pas militaire, mais je me demande, Jean le disait, vous dites à la Salmatara et Macky Sall que vous allez déloger la junte pour mettre Bazoum. Je me pose parfois une question, à supposer que Tchani, en faisant son coup d'état, avait échoué et il est pris. Comme Bazoum a pris certains qui gisent dans les prisons nigériennes actuellement. Les chefs d'État allaient demander de libérer Tchani. La vie de Bazoum est plus importante que les 30 millions de Nigériens ou quoi? Et donc, moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à cette affaire. Je me dis que, heureusement, que les esprits se sont calmés, réveillés, j'allais dire, pour que de toutes parts, Macky Sall et Alassane Ouattara, qui lui seul même aurait envie d'aller combattre les Nigériens, comprennent que mais si jamais ils sont sur cette aventure, les sabotages, ce qui va se passer en Afrique de l'Ouest, eux-mêmes ils vont endosser tout ça là.
D'accord, notre invité Dr Kouévi souhaite réagir sur cette question. Docteur, vous avez la parole.
Je ne souhaitais pas réagir sur cette question, sauf à dire que j'apprécie les analyses, la qualité des analyses faites par les différents intervenants. J'apprécie.
D'accord.
Ce que je voulais plutôt dire, c'est de rappeler, je suis directeur exécutif de l'IFOLC, je voulais rappeler que la semaine prochaine, nous avons une journée d'information et d'orientation à l'IFOLC. C'est mardi et mercredi prochain,
d'accord,
la semaine prochaine, d'une part. Et d'autre part, la foire à Diafi s'ouvre bientôt et l'IFOLD sera présent. Ça sera du 24 août au 10 septembre dans cette foire. Donc nous serons présents là-bas pour vous donner toutes les informations,
d'accord,
aussi bien sur nos formations classiques que sur les formations du partenariat, relevant du partenariat IED-IFOLD que nous avions évoqué. Partenariat qui va permettre aux jeunes Togolais d'être au Togo et de faire des formations et obtenir des diplômes français.
D'accord, nous allons revenir avec vous. Le temps de reprendre Magloire. Magloire.
Oui, pour placer deux mots, tantôt vous avez fait cas, n'est-ce pas, du positionnement des États-Unis par rapport au dossier nigérien. Mais je me dis qu'il n'y a rien de plus normal que ça. Vous savez, nous sommes sur un terrain politique et à un niveau hautement diplomatique, c'est comme cela que ça se fait. Vous savez, entre les puissances, il n'y a pas d'amitié, hein. Les amitiés sont juste circonstancielles sur la base des intérêts. Et donc, que ça ne nous étonne pas ou que ça n'étonne personne si les États-Unis reconnaissent les autorités nigériennes qui sont là. Parce que justement, on parle quand même du Niger et de l'uranium. Et tous les discours le disent, les projections qui sont faites prouvent à suffisance que l'Afrique est l'avenir du monde. Et ce n'est pas pour rien du tout que toutes les puissances ruent vers l'Afrique. La Chine, quand elle vient, elle ne vient pas pour nos beaux yeux. elle vient naturellement avec son offre politique, mais derrière, il a aussi ses intentions. Mmh. La puissance occidentale qui était là depuis la France avec tout ce beau monde, ils ont également leurs offres politiques. La Russie, qui tente également de se faire une place de choix en Afrique, c'est pas des anges, la Russie, naturellement. Mais tout ceci, moi, je me dis que c'est un atout pour l'Afrique. C'est un atout, on doit pouvoir capitaliser tout ceci parce qu'en réalité, le vrai problème de l'Afrique, c'est le rapport de force qui n'est pas à notre faveur. Comment se fait-il qu'on a toutes les ressources possibles pour notre développement, mais c'est nous qui sommes toujours à la queue. Et mais les autres, puisque nous sommes justement sur un terrain d'intérêt, les autres n'ont pas justement l'intérêt de nous voir épanouis d'abord, de prendre conscience de toutes les forces dont nous disposons. Ils ont intérêt à nous endormir beaucoup plus pour mieux nous coiffer. Et donc si aujourd'hui on admet que c'est un nouveau vent qui souffle sur l'Afrique, malgré les coups d'État que nous tous nous condamnons, je crois quand même que ça doit amener les uns les autres à une nouvelle école. De savoir que quel est le discours que tient justement que tiennent les nouveaux régimes militaires qui arrivent. Est-ce que c'est pour leur intérêt? Ils interviennent pour dire que ben parce que la tête de l'autre ne me plaît pas, c'est pourquoi je vais devenir président. Ou alors, ils agissent dans l'intérêt de leur nation. Mais si c'est tel est le cas, ben, je pense que au-delà des condamnations, il faut quand même s'inscrire dans une nouvelle dynamique d'école qui consiste justement à aider l'Afrique à équilibrer les rapports de force avec le monde occidental. Et ce n'est que par là que nous pouvons nous développer.
D'accord. Pour sortir, M. Tchadja, rapidement.
Je pense que dans la même veine, c'est que aujourd'hui, il est clair, si les autorités nigériennes arrivent à tenir le coup, c'est que nous allons, ça va faire 4 États déjà qui sont en train de s'affranchir. Il faut qu'on évolue vers l'unification des États avec une vision commune. C'est ça, parce que si vous voyez, vous regardez de très près, c'est que les groupes djihadistes qu'on nous a amenés, c'est juste pour nous distraire, pour éviter qu'on aille vers la création de la monnaie dont on parle. Mais si vraiment les États arrivent à se regrouper comme ça, avec une vision commune, 4 États qui créent une seule monnaie, vous voyez ce que ça représente. C'est ça seul qui peut, c'est dans cette démarche que nous pouvons nous affranchir de la tutelle de certaines puissances qui, depuis 63 ans, vraiment mettent à la tête des États de petits groupes d'individus, de père en fils, et les minéraux, tout est confisqué, un petit groupe s'enrichit, alors que la majorité est croupie dans la misère. Comment vous pouvez comprendre que l'uranium, le Niger qui produit de l'uranium, soit placé, je pense que c'est l'avant-dernier pays pauvre. Vous pouvez imaginer ça. Donc, et c'est ça qui fait courir les gens. Ça veut dire que tu vois la Guinée, le Burkina, le Mali ici, bien, avec le Niger, c'est une force. Et ça va vraiment, cette résiste. Et tout ça là, c'est le Mali qui a sonné le glas parce que c'est le Mali qui a résisté. Et aujourd'hui, les autres pays comprennent que c'est possible.
D'accord. Nous marquons une pause commerciale et on revient.
93.5. Canal FM.
Nous revenons pour la suite de cette émission. Nous ouvrons la ligne aux éditeurs. Donc, je rappelle rapidement les numéros 22 21 33 74, 22 20 19 68, 98 87 78 37. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Diminuez le volume de votre poste récepteur. Allô? Allô? Oui, bonjour.
Oui.
Vous êtes en direct.
Plateau. Bonjour, Tchadja.
Bonjour.
Oui, moi, je voulais intervenir un peu sur le Niger. Parce que bon, le problème de fond demeure. Qu'est-ce qu'on en fait déjà qui font un coup d'État? C'est pas trop facile. Un militaire, c'est un jour, il fait un coup d'État, il prend le pouvoir, et puis on dit que non, c'est parce qu'on est contre la France. Allô? On est contre la France, et puis nous, tout le monde le supportons. Je voulais poser une question aux trois. J'ai posé la dernière fois, mon nom du dia sur la question. Admettons, Togo, sous prétexte de l'insécurité au nord du Togo, les militaires font un coup d'État fort. Vous allez nous dire de supporter les militaires, que bon, le coup d'état consomme, vous allez nous dire de résister. Merci.
Merci à vous. Allô?
Allô?
Allô? Oui, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Ok. En Afrique, nous voulons la paix. Mm. Nous ne tenons pas pour tous les jours du combat de gens qui crépillent par-ci, par-là. Non. L'Afrique n'est pas pour... la CEDEA plutôt, n'est pas pour ces deux pays, Côte d'Ivoire et Sénégal, qui veulent qu'on aille tirer au Niger. Donc, nous ne soutenons pas leur idéologie et nous voulons la paix en Afrique. Bonne journée.
Merci, bonne journée à vous, Papa Sodiné. Allô? Allô? 22, 21, 33, 74. Allô? Allô? Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Comi.
Monsieur Comi, on vous écoute.
Oui, merci beaucoup. Moi, je suis rentré en ligne pour répondre à une question qui vient d'être posée. Et si on faisait un coup d'État à M. Faure Gnassingbé, est-ce qu'on accepterait? Et c'est ça la question. Si le président actuel se comporte comme Bazoum le fait, c'est possible qu'on lui fasse des coups d'État. Parce que il est là en tant que chef d'état-major, garant de notre sécurité, et qui est habilité à signer des contrats pour pouvoir assumer notre sécurité. S'il refuse de payer les moyens aux forces de l'ordre pour pouvoir lutter convenablement, et vient nous dire que les terroristes sont plus forts que nos frères qui portent les uniformes, oui, nous serons très contents qu'on aurait dû le faire, le coup d'État. Pour finir, ne confondons pas ce que les Blancs se sont organisés en 1963 et ce qui se fait présentement. C'est vrai, nous Togolais, nous sommes victimes du coup d'État qu'on a fait à Sylvanus Olympio. Et d'autres s'inquiètent que les Blancs aussi vont commencer par faire ce type de coup d'État pour l'indépendance ou bien l'autonomie de nos pays africains. Ne nous leurrons pas. Nous avons les informations. À ce jour, si vous vous rappelez, Ouattara, avec le camp Mali, avait envoyé des soldats que les Maliens ont pu arrêter. Maintenant, les gens veulent aller au Niger officiellement pour pouvoir faire la guerre. Ils ne le feront pas. Ils feront mieux d'envoyer comme ils l'ont envoyé au Mali. Comme ça, on va les attraper comme le camp Mali. Mais pour la question de coup d'État, personne n'aime pas le coup d'État. Mais c'est parce que la main invisible que contre laquelle nous luttons est en train de s'immiscer. Il faut tout faire pour le faire sortir.
D'accord. Merci. Merci, monsieur Comi. Allô? 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 Allô, oui, bonjour.
Comment vous allez?
Nous allons bien.
Bon, je voudrais savoir si Bazoum, le président nigérien, est plus important que les millions d'habitants de Nigeria. C'est quelque chose qui peut se poser. Parce que, allez dire que vous allez quand même aller tirer et encore faire couler le sang, tuer la population innocente à cause d'une seule personne. Bon, je ne sais comment dire quoi. Moi, j'allais dire que tu peux faire après ce coup d'État-là, Ouattara, ça serait ton coup. Et laissez-moi vous dire, il y a un auditeur qui vient de dire qu'il y a une mer, il y a une mer derrière ça, et c'est la France. Quelques années plus tard, vous allez voir, tant que même pas, tant que 5 ans, je te dis que la France deviendra un pays le plus pauvre de l'Europe. Ça, c'est une prophétie. Je vous remercie
beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Allô? 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 22, 20, 19, 68, 98, 87, 78, 37. Allô? Allô? Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Monsieur Gado.
Monsieur Gado, on vous écoute.
Oui. Moi, je suis contre le président du Nigeria. Mais ce vieux-là n'est pas sage. Moi, je ne vois pas pourquoi il s'acharne. Alors que c'est enfin, qui manipule ce monsieur-là. Je vais vous dire une chose, hein. Ce monsieur-là, Tinubu, là, c'est un dealer de drogue. Franchement, j'ai la preuve. C'est un bandit qui a été arrêté aux États-Unis. C'est la CIA qui l'a placé à la tête de la CDAO là-bas. Je vous jure, il n'a même pas gagné les élections. Moi, je dis à tout le monde, peuple togolais et africain, de supporter le Niger. Merci, bonne journée.
Merci à vous. Allô? Allô? Allô?
Oui, allô, bonjour.
Le dernier auditeur, on vous écoute.
Merci. J'aimerais remercier les intervenants et poser une question au docteur Kouvi qui est sur le plateau. Ils ont parlé de l'ivoire tout à l'heure, mais j'aimerais qu'ils me donnent un petit éclaircissement sur les filières qui sont sur l'ivoire. Merci.
D'accord. Merci, c'est donc le dernier auditeur de ce jour. Alors, nous revenons rapidement avec nos invités. Docteur Kouvi, vous avez une question qui vous est adressée. Vous pouvez aller.
Oui. Merci beaucoup à l'intervenant qui a posé la question. Et à l'IFORD, nous avons des formations de niveau BTS, et de niveau licence et master. Nous avons deux BTS. Il s'agit du BTS gestion, décentralisation et gestion des collectivités locales, d'une part, et du deuxième BTS, que je ne dois pas normalement traîner à... C'est, puisque nous avons évolué, je reviendrai tout de suite là-dessus, je cherche. Alors, je développe rapidement, je vous présente les licences. C'est la licence en droit, qui conduit à la spécialisation droit privé, droit public, licence en gestion de projet, licence en ingénierie du développement durable, administration et gestion fiscale, transport et logistique et licence décentralisation et gestion des collectivités locales. Nous avons également des masters en développement durable et avec des spécialisations à l'intérieur. Nous avons le master passation et gestion des marchés publics, finances publiques et fiscalité, gouvernance et management des organisations. Et le master décentralisation et gouvernance locale.
D'accord.
Alors, s'agissant des formations qu'offre l'IED, dont nous venons de parler, il s'agit des formations de niveau capacité, je l'avais dit, de niveau licence et de niveau master. Master 1, master 2. Au niveau master 1, il y a le droit des affaires, le droit privé, droit public et droit international et comparé. Il y a en Master 2, le droit des affaires approfondi, le droit privé, le droit des collectivités territoriales et le droit international comparé également. Mais c'est une formation qui est appelée à évoluer.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Pour terminer, peut-être un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent.
Un dernier mot. Nous remercions encore une fois les étudiants qui nous ont rejoints l'année dernière à l'appel de la politique de zéro franc. Nous remercions également leurs parents. Nous remercions encore ces étudiants parce qu'ils ont su se montrer très dynamiques, très intéressés. Ils ont monté des clubs, ils ont rendu vie à l'association des étudiants de l'IFORD, etc. Mais l'IFORD remercie également ses partenaires. Il y a deux ISF, il y a l'Université Paris 1 actuelle. Nous sommes en train de développer beaucoup de partenariats, on va dire locaux, c'est-à-dire au Togo. Et beaucoup de choses sont en cours de finalisation et c'est une réelle dynamique qui est promise à l'IFORD. Nous remercions tous les enseignants aussi, tous ceux qui sont là pour nous soutenir.
D'accord, merci à vous, professeur Kouvi Amavi Gustave, professeur à l'Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, directeur exécutif de l'IFORD. Il était accompagné du docteur Kanyi Togbe John, enseignant-chercheur, maître en administration publique. Merci à vous d'être passé dans cette émission.
Merci.
Merci beaucoup, Fousseni. Merci à Canal FM.
D'accord. Alors, nous revenons à Madame Essivi Mimibosu Swegede. Nous allons clore cette émission, mais d'abord, dites-nous comment va se passer cette conférence, la conférence des jeunes leaders.
Alors, je voudrais parler des conditions. C'est 3000 francs. Donc, Palais des Congrès. Ceux qui peuvent acheter le ticket aujourd'hui, c'est l'idéal. Appelez le 70 32 68 12. 70 32 68 12. On peut acheter les tickets par Timoni ou venir très tôt demain à 7 heures pour l'acheter sur place parce que la conférence commence à 8 heures. Et il y aura une cerise sur le gâteau demain, c'est que nous allons également projeter le film Le Job Idéal, puisque nous parlerons d'orientation professionnelle, donc le job idéal autour duquel nous aurons également à échanger. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier le gouvernement pour les mesures qui sont en train d'être prises pour encadrer nos jeunes apprenants, notamment sur les tenues scolaires, sur le civisme, et tout le reste, sur les films à projeter aux jeunes. Je voudrais les féliciter, mais je voudrais également lancer un appel à nous les parents. Parce qu'une chose est de faire, de prendre des mesures, mais il faut les appliquer. Mais ce sera pas, ça ne reviendra pas au gouvernement seul de faire appliquer ces lois si les parents tiennent un autre langage à la maison. Des parents qui disent aux enfants, par exemple, « Ah, ce pays-là, ça ne va pas, etc., etc. » Vous leur donnez des occasions de perpétuer, de continuer dans la paresse et avoir comme alibi « Ça ne marche pas, donc si je ne réussis pas, c'est normal que je ne réussisse pas. » Non, que nous, les parents, nous accompagnons le gouvernement. Ça, ce n'est pas bien, mais quelque chose est fait. Admettons-le et accompagnons le gouvernement à mieux faire pour le bien de nous tous, notamment pour le bien de nos enfants, les cadres de demain, les parents de demain. Je voudrais inviter les parents à offrir cette rencontre à leurs enfants. C'est 3000 francs pour une demi-journée. Les 3000 francs même, on prend la salle, ils mangent, ils ont le jus, ils ont de l'eau. C'est pour dire que ce n'est pas à but lucratif, mais nous sommes fixés comme objectif d'accompagner les jeunes à devenir de bons leaders, de bons responsables, de bons cadres, de bons parents plus tard. Nous parlerons de la bonne gestion de la sexualité demain. Nous parlerons des effets de la drogue et c'est avec la cellule gouvernementale chargée de la lutte contre les stupéfiants que nous parlerons également des effets de la drogue sur le cerveau des enfants demain. Vous voyez, nous aborderons des sujets sur lesquels on a besoin de leur parler. Parfois, c'est juste par ignorance que les enfants font des choses. Et je le dis toujours, avant d'être coupable de quoi que ce soit, nos enfants sont victimes de l'éducation que nous leur donnons, de l'environnement que nous leur faisons, de tout ce que nous faisons avec eux, de l'éducation que nous leur donnons à la base. Apprenons par exemple à nos enfants à dire non devant la drogue. Quand les autres lui présenteront la drogue, il aura le courage de dire non. Il y a une responsabilité qui revient au gouvernement, il y a une responsabilité qui revient aux parents et il y a une responsabilité qui revient aux enfants eux-mêmes. Et c'est de ça que nous parlerons parce que c'est vrai, ils disent « Ah, mon parent n'a pas fait ci, mon parent n'a pas fait ça ». C'est vrai, mais on parle de toi, c'est ton avenir. C'est de ça qu'on parlera demain. On retrouvera des occasions pour parler également aux parents, pour accompagner les enfants. Des enfants qui sont pressés de rentrer, de reprendre l'école parce que les parents ne sont pas là, ils ne les voient pas, ils ne voient pas l'intérêt d'être à la maison. Parce que les parents ne sont pas là. Autant aller à l'école, au moins on a les camarades. Et qu'est-ce qu'ils apprennent là-bas s'ils ne sont pas bien préparés à la maison? Vous voyez, il y a autant de choses à faire. Et à Confegel demain, nous dirons l'essentiel pour que les enfants repartent sur de bonnes bases.
À la dernière conférence ensemble, Femmes ensemble, voilà, nous avons vu des panélistes qui sont jeunes. Est-ce que ce sera pareil pour Confegel?
Oui, c'est beaucoup plus de jeunes pour que les participants se retrouvent en eux. Et vous l'avez rappelé, ceux qui peuvent aller à l'école, on les incite à aller à l'école et avoir des diplômes. Mais si on ne peut pas aller à l'école, ça ne veut pas dire qu'on est nul. On a des talents. Vous avez vu la femme ensemble, la jeune fille là, elle a échoué au bac deux fois. Elle a 21 ans. Elle entreprend aujourd'hui, elle s'en sort très bien. Elle est invitée partout en Afrique. Elle n'a que 21 ans, mais elle a compris très tôt. Mais elle leur a dit la dernière fois, je vais avoir mon bac, je vais continuer. Mais pour l'instant, voilà ce que je fais, mais je vous garantis, je reviendrai sur ce podium pour vous dire que j'ai mon bac et j'ai mon diplôme pour dire que chacun a sa personnalité, a ses compétences. Il y a ceux qui iront au doctorat, il y a ceux qui iront dans l'artisanat, il y a ceux qui iront ici ou là. Tout est question de qui je suis et savoir où je vais.
D'accord. Merci à vous, Madame Essivi Mimi Bosu-Suegede. Je rappelle que vous êtes la directrice de la maison TV5 Monde, également directrice exécutive de l'APTV, Association Précieux Trésors de Vie. Merci d'être passé dans cette émission.
Merci, 70 32 68 12.
D'accord, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons passer à l'étape des cartons. Peut-être une réaction avant, Michel Tchadja.
Oui, la réaction, c'est mon trou, de le trou sur lequel, en tout cas, je parle tout le temps, au niveau de l'Eguacito, au feu rouge, l'Eguacito en allant, Monsieur Ntobe, Covier, aujourd'hui avec la pluie. Vraiment, il fallait être à côté, être témoin pour voir comment les usagers vraiment souffrent. Alors que c'est un trou qu'on pouvait aider à remblayer, à remplir pour pouvoir aider la population à rouler doucement. Par rapport à la réaction, c'est que ce qui se passe au Niger m'a amené à cette réflexion que vous avez vu au Bénin avec l'ancien président Bounou Yayi. Il a passé 10 ans au pouvoir avec des gens sous le soleil, dans la pluie, partout. Et quand il voulait partir, il est allé chercher quelqu'un en France pour venir, on l'a cousu les pagnes du Bénin, parce qu'il est béninois, on a essayé de... Vous avez vu ce que les béninois...
Vous voulez parler de Lionel Zinsou.
Je ne sais pas, c'est les réseaux, il est allé l'amener, en abandonnant ceux qui l'ont soutenu au pays pendant 10 ans. Et les béninois, vraiment, ont bien réagi en le mettant de côté. Vous avez vu en RDC... comment l'appelle-t-on, Kabila, en partant, il a amené Chadari ou quoi là, il a amené pour ne pas bien partir, on met quelqu'un, un pantin, et vous avez vu ce que les Congolais ont été capables de faire. C'est comme ça, Mugabe, sentant sa fin approcher, a voulu mettre une maîtresse au pouvoir, mais vous avez vu, les militaires l'ont éjecté dans le fleuve de l'oubli rapidement. Donc c'est aujourd'hui, c'est comme ça, les populations sont regardantes dans tout ce qui se fait dans l'élite militaire aussi observe. Donc, je pense que aujourd'hui, on ne peut plus gouverner les gens comme 1980, c'est fini.
D'accord, carton pour terminer.
Non, j'aime pas de carton.
D'accord, Jean Le Grand Polorgny.
Moi, j'apporte mon soutien à l'initiative de la Confégel parce que moi, j'ai dit que les bons dirigeants de demain, c'est les enfants d'aujourd'hui. Les bons pères de demain, c'est les enfants d'aujourd'hui. Les bons journalistes, les bons fonctionnaires, les bons entrepreneurs de demain, c'est les enfants d'aujourd'hui. Et j'invite également les parents à envoyer leurs enfants au niveau de cette formation. Mais je veux également attirer l'attention de la Confugel sur ces jeunes-là qui n'ont pas de parents, parfois qui ne peuvent même pas avoir ces 3 000 pour venir à cette formation. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour ces jeunes-là qui ont bien envie, mais qui n'ont pas les moyens? C'est un pavé jeté dans la mare.
D'accord.
Je carton. N'ai pas de carton, mais je vais saluer deux personnes qui suivent religieusement le Club de la Presse.
D'accord.
Il s'agit de Mme Rebecca Laure Suarez et M. Kossi Kileou qui vous suivent tous les jours.
D'accord. Merci. Magloire Teko.
Non, je crois que lors de l'émission, on a parlé de ce sujet très important parce qu'il s'agissait justement de la santé publique, parlant justement du formant qui se retrouve dans nos plats. Et je crois qu'il est temps qu'on agisse parce que, vous voyez, quand on fait ça comme ça, on consomme, ça agit sur les reins, ça agit sur le foie, ça entraîne des complications respiratoires, ça participe à la multiplication anarchique des cellules et on parlera demain de cancer. Okay. Et tout ça, c'est parce qu'on l'a fait sans forcément le savoir. Et du coup, j'aimerais donc interpeller les uns les autres, surtout les associations de consommation où, et voilà, je ne sais pas comment on les appelle, les associations qui luttent.
De consommateurs.
Voilà, de consommateurs à veiller au grain. Il faut qu'on développe ou on mette sur pied des cellules de suivi, de veille surtout, pour dissuader ces consommateurs ou du moins ces commerçants assez véreux qui nous font courir des dangers.
D'accord, votre carton?
Pas de carton, mais juste un message au chef d'État de la CEDEAO, l'ancien président Oufou Boigny a dit la paix, c'est pas un mot, mais c'est un comportement.
D'accord. Merci à vous, Michel Tchadja du journal Ouara les Vainqueurs, Magloire Teko du journal Flambeau des Démocrates et Jean Le Grand Polorgny du journal Canal D. À la technique, il y avait Thomas Datévi, mise en ligne Jéro Akoutia. Je suis Fousseni Saïbou. À très bientôt.
Nigeria. Pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Yeah, you are.